Donc, ce matin, j'avais envie de... Enfin, j'avais envie, c'est pas tellement le terme, c'est... Je fais un suivi sur l'Épître aux Hébreux et on est au chapitre... Fin du chapitre 4 et début du chapitre 5. Et ce passage m'a fait réfléchir et m'a posé une question. Et cette question, c'est comment Dieu traite le mal, ou on aurait pu le mettre au passé, à traiter le mal et ses conséquences. Alors, en introduction, j'aimerais vous citer une citation d'Alexandre Dumas. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est son fils, mais « Si Dieu pouvait, et ça exprime l'humanité et le cœur de l'humanité, si Dieu pouvait tout à coup être condamné à vivre la vie qu'il inflige à l'homme, il se tuerait. » Cette pensée d'Alexandre Dumas montre avec force le poids énorme de la souffrance qui pèse sur les épaules des hommes et des femmes. Notre humanité, nous sommes l'humanité, souffre terriblement. Je me rappelle ce terrible typhon qui s'est abattu sur les Philippines. Nous sommes sans voix devant la détresse que celui-ci laisse derrière lui. Une détresse face à la mort qui semble toucher presque aveuglément, sans aucune justice. Plusieurs météorologues et scientifiques évoquent clairement que les gaz à effet de serre sont à l'origine d'une augmentation de la fréquence de ces typhons et de leur intensité. L'homme, par son avidité et sa recherche toujours plus grande du profit, a amené celui-ci à détruire à petit feu sa planète. Et l'homme lui-même fait le constat que malgré cela, il ne s'entend pas pour faire le bien de manière globale. Certaines grandes puissances ne veulent toujours faire aucun effort pour limiter les risques environnementaux. Pourtant, nous en avons vu les désastres. L'intérêt individuel prime d'un pays prime sur l'intérêt collectif de la planète. Cela nous paraît totalement invraisemblable. Pourtant, c'est la vie. Nous constatons alors avec force l'égoïsme qui prime avant tout. C'est effroyable, car cela tue des gens. Mais c'est la vie. Mais qu'est-ce que faire avec cela? Que faire avec ça? Nous voyons bien que l'humanité souffre des conséquences du mal sans pouvoir expliquer le pourquoi et le comment. C'est alors qu'une idée nous vient à l'esprit. Et si un Dieu existait, pourquoi permettrait-il cela? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire contre ce mal? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour arrêter ce mal? Pourquoi aujourd'hui ne semble-t-il rien faire? Pourquoi il ne règle pas une bonne fois pour tout le mal et surtout ses conséquences sur notre humanité, sur l'humanité tout entière, à savoir la souffrance et son aberration pour nos vies? Nous allons découvrir ce matin ce que le Dieu des chrétiens, celui qui nous a parlé par la parole, la Bible, a à nous dire sur le problème du mal et comment celui-ci l'a traité. Nous risquons peut-être d'être surpris de voir que le Dieu de la Bible a pris cela tellement à cœur qu'il en a fait le programme de sa vie. Ou plutôt de son éternité, puisque lui-même n'a ni commencement ni fin. Je vous invite à découvrir une des réponses de Dieu au mal et à ses conséquences sur nos vies. Je vous invite à lire avec moi Hébreux 4, verset 14, jusqu'au chapitre 5, verset 10. Hébreux 4, verset 14. Jusqu'au verset 10 du chapitre 5. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacré grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, Restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées puisqu'il est lui-même aussi assujetti à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, à moins d'avoir été appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es fils, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi « Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek ». Pendant sa vie sur terre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Après un appel très fort, juste avant notre passage de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à la persévérance jusqu'au bout, sans quoi nous pourrions être privés du repos de Dieu, comme les Israélites dans le désert, l'auteur ne reste pas sur une touche où l'incertitude planerait sur les auditeurs. Au contraire, après les avoir vivement secoués, il désire leur montrer celui qui est supérieur aux anges, à la loi de Moïse, ce fils qui est Dieu lui-même. Mais que désire-t-il nous montrer ce matin ? Jésus, le grand prêtre, j'ai intitulé cette partie, qui nous assure sa compassion. Il désire leur montrer que Jésus est un GP, un grand prêtre. L'auteur désire montrer que dans le monde où ils vivent, et où ils souffrent, ils peuvent compter sur le Fils de Dieu, Jésus. Et ce statut est celui du souverain sacrificateur ou du grand prêtre, suivant les versions. Le texte nous montre que c'est un gage pour rester attaché à cette foi. Restons attachés fermement à cette foi. Mais comment ce statut est conféré à Jésus ? Et en quoi cela est intéressant pour nous aujourd'hui ? J'aimerais vous faire un rapide retour sur la fonction de sacrificateur, même si Michel nous a fait déjà un point. Le grand prêtre, parce que pour nous, le grand prêtre ne représente pas grand-chose. Mais pour le juif de l'époque, le grand prêtre représentait la plus haute autorité religieuse du pays. Lui seul entrait dans le lieu très saint du temple une fois par an pour faire l'expiation, pour couvrir le péché de toute la nation aux yeux de Dieu. Il était le médiateur entre le peuple et Dieu pour le traitement de son péché et celui du peuple. Ainsi, lorsque l'auteur de l'Épître indique que Jésus est le véritable souverain sacrificateur, celui qui a traversé le ciel et qui est le Fils de Dieu, pour le Juif, c'est encore une nouvelle révolution dans sa pensée. Mais qu'est-ce que ça change ? Pour nous vraiment aujourd'hui. Verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché? Première réponse, Jésus, ce Jésus n'est pas resté le Fils immuable de Dieu, inaccessible. Il n'est pas resté dans le ciel à superviser et diriger l'humanité, comme parfois moi je fais, je supervise mes collaborateurs. Non, c'est une personne qui a acquis le statut d'intermédiaire entre Dieu et les hommes par sa venue sur terre. Et sans doute pour moi, l'un des faits les plus hallucinants. De par la tentation vécue, nous dit le texte, comme nous, lors de son passage sur terre, il est devenu apte à compatir à nos faiblesses. Notre Dieu a en quelque sorte passé le diplôme avec succès. Mais il a passé l'examen. Parce que notre Dieu s'est fait homme en son Fils Jésus-Christ et que celui-ci a subi toutes les conséquences de cette humanité. Il a validé toutes les épreuves pratiques lui permettant de compatir à notre souffrance, à nos faiblesses. La compassion, c'est souffrir avec autrui, éprouver les mêmes sentiments. Comme nous l'a dit Marc la semaine dernière, non qu'il ait été infecté par le mal, mais tellement affecté par celui-ci qu'il en est devenu qualifié pour nous. Mais de quelle faiblesse nous parle le texte? Ce terme n'est pas proprement parlé mal. Ce mot explique notre impuissance devant la tentation et l'épreuve et notre sentiment de fragilité. Il a ressenti, Jésus a ressenti le poids de la fragilité associée à la condition humaine. Dieu n'est donc pas resté indifférent au mal et à la souffrance associée au mal. Non, devant cette souffrance et le poids de cette fragilité de l'humanité, il ne s'est pas érigé en donneur de solutions théoriques pour résoudre le problème du mal comme nous l'aurions envisagé. Il est venu et il a été assujetti à cette faiblesse, cette souffrance sans pour autant en être touché par le péché. Dieu est venu donc combattre avec nous, en souffrant avec nous, et cela par le moyen de son Fils. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi ça me touche. Même si nous souffrons, quand nous souffrons, nous sommes souvent seuls. Même si nous sommes invités à partager nos souffrances entre frères et sœurs, naturellement nous nous recroquevillons sur nous-mêmes pour souffrir seuls. Selon Émile Michel Chiorian, philosophe roumain, la souffrance est un état de solitude intérieure que rien d'extérieur ne peut soulager. La souffrance ne fait pas grand bruit. Elle se cache dans nos cœurs, dans nos êtres. Elle cache des blessures de l'amour. Elle cache des blessures physiques, psychologiques. Elle cache nos vides intérieurs et nos soifs inassouvis. Nos désirs que nous n'osons même plus évoquer dans nos prières, tellement ils nous semblent impossibles à saisir. Pourtant, si vous passez par cette situation, le péché est tapis à votre porte comme Caïn. Vous ne le savez peut-être pas, vous ne l'imaginez peut-être pas, et pourtant, il vous pousse tranquillement vers ce à quoi il veut aboutir en vous, à savoir le découragement. Il désire que votre souffrance vous amène vers une impasse où la foi dans la promesse de Dieu n'est plus qu'un vulgaire souvenir. La seule issue, c'est d'ailleurs peut-être la mort elle-même. J'aimerais pourtant vous faire entrevoir un rayon de soleil au milieu de ces ténèbres. J'aimerais que nous puissions accepter comme des enfants ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ce matin. Notre détresse, nos afflictions ne sont pas incomprises par Dieu. Bien au contraire. Dieu comprend tout cela, car son Fils a vécu cette faiblesse et les conséquences du mal sur sa vie, sans pour autant être touché par le péché. Notre Dieu n'est pas resté impassible devant notre faiblesse et notre souffrance. Il n'est pas resté sans rien faire. Il a envoyé son Fils unique pour connaître en tant qu'homme tout ce que nous pouvions vivre sur la terre et subir. Je vous invite, moi aussi, pendant cette semaine, à apprendre par cœur ce verset, ce verset 15, chapitre 4. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Souvent, il nous est plus facile de nous confier à une personne qui passe par les mêmes situations que nous. Eh bien, sachez alors que Christ a tout subi en tout point comme nous. Acceptons-le avec foi et combattons avec la grâce que Dieu nous donne, notre incrédulité. Mais cela aurait été insuffisant si notre Dieu nous avait laissé avec cette prise de conscience seulement. Dieu en réserve quelque chose d'immense aussi. Notre secours dans cette faiblesse. Jésus, le grand prêtre, qui nous assure notre secours, son secours. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. La compréhension et la compassion données sont déterminantes dans la guérison opérée. Pourtant, elles seules ne nous assurent pas la délivrance et le secours au moment opportun. Notre grand prêtre a des cartes dans les manches, il ne nous a pas tout montré encore. Non seulement il a connu notre faiblesse et notre souffrance, mais il a même nous donné un secours opportun si nous nous approchons de lui. Voilà une nouvelle qui pourrait bien changer des choses dans nos têtes. Non seulement Christ a la compréhension et la compassion pour nous, mais Christ peut nous secourir si nous approchons de son trône. Vous souffrez, nous souffrons, mais vous avez un Dieu qui attend votre intercession. Il attend que vous épanchiez sur lui pour qu'il vous libère du poids de votre souffrance. Christ a hâte que vous vous déchargiez sur lui. Vous souffrez d'un poids trop lourd à porter seul. Alors ne résistez plus. Ne résistons plus. Ne résistons plus à Dieu qui désire nous secourir. Mais approchons-nous de Christ. Il n'attend que ça. Il veut déverser sur nous un baume qui nous relève, un baume de grâce. Par nous-mêmes, nous n'avons pas d'issue, mais Christ est là. Il est notre secours. Ce n'est pas seulement théorique, comme un phare qui guiderait les bateaux, qui pourrait être en déroute. Il est un point de salut pour les bateaux en détresse. Christ est ce phare qui s'allume pour nous secourir d'une descente toujours plus terrible sur notre vie. Ce n'est pas un espoir ténu, mais une véritable assurance d'une ancre solide pour notre foi. Une promesse sur laquelle nous pouvons nous reposer pour combattre à nouveau l'incrédulité. Dans son livre « Combattre l'incrédulité », John Piper nous invite à prendre conscience que nous sommes constamment aux prises avec l'incrédulité dans tous les domaines de nos vies. À chaque fois, la foi n'est plus placée sur Christ, mais sur autre chose. C'est d'ailleurs à ce moment-là que se produit le péché. La foi dans la grâce à venir, comme nous dit notre passage, c'est avoir l'assurance d'un secours de Christ toujours fidèle dans tous les domaines de nos vies. Nous plaçons d'ailleurs tous notre foi sur quelque chose. Et souvent, nous préférons nos substituts à Dieu lui-même, comme l'inquiétude par exemple. Analysons avec précision le combat que nous vivons et la joie que nous pouvons d'être assurés avec Dieu, en Dieu, celui qui nous donne une victoire toujours renouvelée. Si nous venons au trône de sa grâce pour obtenir un secours au moment opportun. Vivre par la foi, c'est accepter nos faiblesses et accepter de les remettre à Christ pour être secourus. Mais le secours, Samuel, c'est quoi exactement ? c'est l'assistance portée à une ou des personnes en danger ou dans le besoin. Et oui, malheureusement, je ne veux pas vous faire de faux espoirs. Dieu ne nous promet pas une bénédiction et un secours toujours libérateur de notre condition. Il ne satisfera pas toujours à notre désir, que nous croyons souvent légitime, mais qu'il considère peut-être comme secondaire dans son projet global pour nous. Le secours, c'est la certitude par contre qu'il nous gardera toujours en lui si nous passons par un grave danger ou par un grave besoin. Approchons-nous donc de son trône pour obtenir ce qu'il nous a promis, son secours et sa compassion. Si vous avez l'impression parfois que vous étouffez, que vous êtes près de chuter dans votre marche à cause du poids des souffrances, je m'encourage moi-même cette semaine à prendre un temps avec Dieu pour lui implorer son secours. Il a promis de vous le donner. Il ne vous laisse jamais seul à votre faiblesse. Mais ce n'est pas tout. L'apogée de la réponse de Dieu au problème du mal, c'est que Christ n'a non seulement pas que compati et secouru, il est allé encore un pas plus loin. Il est venu nous pardonner. Jésus, le grand prêtre, qui nous assure de son pardon. Je vous invite à lire Hébreux 5, 1 à 4. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées puisqu'il est lui-même aussi assujetti à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Ces quelques passages nous ouvrent une autre direction et un petit retour en arrière sur la fonction sacerdotale du grand prêtre. Le grand prêtre est très pris parmi les hommes, nous dit le texte. Il était établi pour les hommes dans une tâche précise, le service pour Dieu, afin de présenter quoi ? Des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il pouvait compatir, avoir de la compréhension, nous dit le texte, car il avait été lui-même, était ignorant et égaré, assujetti à la faiblesse. Il devait d'ailleurs à ce titre offrir des offrandes pour ses propres péchés. Il ne pouvait s'attribuer l'honneur de cette charge puisqu'il était dans la lignée de Aaron, une lignée qui avait été choisie pour le sacerdoce, pour la fonction de grand prêtre. Le grand prêtre devait être un homme assujetti à la faiblesse pour compatir dans sa fonction de l'expiation du péché, tout en étant appelé par Dieu pour cette fonction. Mais comment Jésus-Christ a pu prendre cette fonction que nous venons de décrire? Et là, je vous invite à continuer la lecture, versets 5 et 6 jusqu'à 10. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours » à la manière de Melchisédek. Pendant sa vie sur terre, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. L'auteur prend point par point les caractéristiques du grand prêtre pour nous montrer leur accomplissement en Christ. Petit 1, Christ ne s'est pas attribué seul la fonction de grand prêtre par gloire. Non, il en est bénéficiaire par la volonté de Dieu et de manière éternelle. Mais le texte explicite comme le Christ a pu, dans une certaine manière, avoir des sentiments identiques au grand prêtre, sans commettre de péché. Et pour cela, le texte nous expose que Christ, pendant sa vie terrestre, a présenté des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes. Christ a donc été en proie à une souffrance, une faiblesse telle que celle-ci l'a poussé à crier, à pleurer vers son Père. Loin d'être un Dieu étanche à la souffrance humaine, Jésus a subi une souffrance immense. Les théologiens sont partagés sur le lieu où se passent les cris, mais beaucoup sont d'accord pour pointer les regards vers Gethsémané. Le Christ a subi une souffrance dans laquelle il ne peut que crier et pleurer. Et ô combien cela semble ressembler à nos vies. Une deuxième difficulté apparaît dans notre texte, notamment sur la prière que Jésus a faite. Il a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. La direction des prières de Jésus n'est pas indiquée immédiatement. Toutefois, indirectement, elle semble apparaître. Les théologiens sont encore une fois partagés sur l'objet des demandes, mais ils renvoient naturellement au passage où Jésus demande l'éloignement de la coupe. À Gethsémané, deux requêtes, l'une conditionnelle de ne pas boire la coupe, l'autre absolue, la réalisation du dessein de Dieu pour l'humanité. De façon frappante, on retrouve encore une fois cette tension dans notre passage entre le sauver de la mort, qui évoquerait la demande conditionnelle et exaucée en raison de sa piété, qui attesterait l'accomplissement du désir fondamental. Jésus souffre terriblement et nous pouvons voir dans sa supplication la demande instante que malgré tout, malgré son désir d'homme d'échapper à une telle mort, la volonté du Père doit s'accomplir. L'accomplissement allait d'ailleurs provoquer le triomphe sur la mort elle-même. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Sans doute l'un des textes le plus fort sur l'humanité de Christ. Ce fils, on se le rappelle, qui est le resplendissement de la gloire, nous a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, a dû non seulement obéir, mais apprendre l'obéissance. Et cela par un dur chemin de souffrance. Là est sans doute la plus grande surprise. Clairement, l'apprentissage de Christ dans la souffrance est différent du nôtre, puisque celui-ci est exempt de péché. Car nous progressons, nous aussi, par des souffrances suscitées par nos propres erreurs, soit à titre de conséquence, soit comme juste châtiment. Il nous apparaît incompréhensible que l'obéissance, n'ayant jamais fait défaut, s'enrichisse, devienne de plus en plus complète, parce que vécue réellement, concrètement, au cours d'une successive et parfois douloureuse victoire dans de multiples épreuves, tentations. Le fait d'avoir appris l'obéissance semble également un élément décisif dans la compréhension de l'amour dont fait preuve ce nouveau grand prêtre. Nous devons donc maintenir la double affirmation suivante. La parfaite fidélité du Christ, la nécessité de l'apprentissage. Il nous paraît inévitable de maintenir les deux énoncés humblement en tension positive et trouver la matière à un émerveillement reconnaissant. Quel Dieu nous avons, loin d'être un grand prêtre divin, exempt de toute souffrance, comme nous qui progressons dans notre sanctification de Dieu, lui aussi a progressé et a même appris. Et sans doute l'apogée dans notre développement, versets 9 et 10, est parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Christ est donc qualifié parfaitement par ses souffrances, par son passage sur terre, par l'obéissance qu'il a appris, qui lui confère la validité de l'appel comme grand prêtre. Il est devenu le grand prêtre qui peut nous accorder le pardon de Dieu et donc le salut éternel, l'accès vers Dieu. Notre Dieu ne nous a pas laissés seuls face à la souffrance et au mal. Il a été plein de compassion avec nous, puisqu'il a vécu sur la terre. Il nous a donné la possibilité d'un secours opportun au moment de la détresse. Mais sans doute l'apogée, il est devenu celui qui règle le problème du mal et du péché. Il règle le problème de l'impossibilité de l'humanité d'aller vers Dieu à cause du péché. Il abat, comme a dit Malia tout à l'heure, le mur infranchissable du péché qui sépare l'homme d'avec Dieu. Et il pardonne le mal qui est dans nos cœurs. La contamination de nos cœurs est donc une fois pour toutes réglée par ce grand prêtre. Le pardon est total. La délivrance est totale, car le médiateur, le grand prêtre, est parfait dans sa divinité et dans son humanité. Beaucoup d'obstacles se dressent dans les cœurs à l'acceptation de ce pardon, et notamment le refus de la substitution, que Jésus prenne notre place. L'homme résiste à ce que quelqu'un ait fait le travail à sa place. Nous aimerions être capables d'aller vers Dieu. Nous aimerions pouvoir gagner notre pardon, soit pour des bonnes actions, par des bonnes attitudes et des bonnes disciplines. Mais cela n'est pas possible. Dieu n'a donné aucun autre nom, aucun autre moyen par lequel nous devions être sauvés. Et celui, c'est Jésus-Christ, ce grand prêtre. Nous sommes invités à saisir par la foi ce pardon offert comme le plus grand cadeau de Dieu pour une humanité qui se détruit et qui se perd dans sa souffrance. Le Dieu de la Bible n'est pas resté indifférent au mal et à la souffrance. Bien au contraire, il l'a traité, il l'a considéré comme un sujet digne de la plus grande attention et qui nécessitait même d'envoyer son propre fils. Dieu ne nous a pas expliqué d'où venait le mal, mais il nous a montré ce qu'il souhaitait faire au mal et à ses conséquences. Il n'a pas ignoré notre souffrance, bien au contraire, il l'a vécu et nous a donné à travers ce Fils qui a fait éruption dans le monde, donné accès à Dieu. L'inaccessible est devenu accessible. Dieu n'est pas resté lointain, il est venu à notre rencontre, a pris la fonction de l'intermédiation parfaite, à savoir celle de grand prêtre, pour toujours. Jésus, grand prêtre, nous assure sa compassion. Ce grand prêtre a la capacité de compatir à nos souffrances, car il a été tenté en tout point comme nous. Notre seule tâche est de combattre pour cette foi, la foi de sévir cette promesse et de la faire nôtre, pour notre vie. Jésus, grand prêtre, nous assure de son secours. Ce grand prêtre, ayant été qualifié par la tentation et la souffrance comme moyen d'obéissance, il nous assure un secours opportun si nous nous approchons du trône de sa grâce. Notre seule tâche, encore une fois, est de combattre pour cette foi, la foi de saisir cette promesse et de la faire nôtre. Jésus, grand prêtre, nous assure de son pardon définitif et total. Son obéissance, sa souffrance, il en a été exaucé et est devenu un parfait grand prêtre, un parfait intermédiaire entre l'humanité et la divinité. Il est devenu l'auteur de notre parfait salut, de notre parfaite délivrance, nous assurant ainsi le règlement du mal de manière définitive. Si Dieu pouvait tout à coup être condamné à vivre la vie qu'il inflige à l'homme, il se tuerait, nous a dit Alexandre Dumas. Dieu n'a pas été condamné à vivre la vie sur terre, mais il s'est lui-même infligé la condition humaine pour justement connaître nos souffrances et pouvoir les porter. Il est effectivement mort, mais non par un suicide lié au désespoir, mais pour connaître en tout point ce que nous avions vécu et nous assurer le pardon de nos fautes. Ce grand prêtre n'assure pas une délivrance globale et collective sans condition, malheureusement. Elle atteint ceux qui lui obéissent et ceux qui placent leur confiance en lui, nous dit le texte. Si vous n'avez pas fait l'expérience de cette délivrance du péché, je vous invite ce matin à ne pas passer la porte de cette église sans avoir crié à Dieu de vous pardonner votre péché. Si vous souhaitez en parler, il y aura toujours des gens dans cette église pour venir vous aider à faire ce pas vers Dieu. Ce pas de foi, d'accepter ce pardon. Nous sommes tous libres d'accepter la main tendue que Dieu désire nous donner. Ce matin, vous avez la possibilité de régler une fois pour toutes votre péché. Alors faites-le. Quant à ceux qui souffrent dans leur vie, en tant que fidèles croyants, acceptez par la foi la grâce que Dieu désire vous donner, à savoir la compassion et son secours. Vous dites que c'est peut-être trop facile, et pourtant c'est saisir la promesse de Dieu que Dieu veut vous faire ce matin. Si ce matin vous voulez que des personnes prient pour vous, c'est encore possible. Saisissez l'occasion que Jésus vous tend. Devant le mal et la souffrance, Dieu n'est pas resté impassible, mais il n'a pas voulu régler le mal pour les autres. Il a voulu régler le mal pour vous, pour nous. Il n'est plus question de regarder son voisin, c'est notre cœur qui dévient. Je vous invite à prier. Père éternel, nous sommes presque sans voix. Sans voix parce que d'habitude nous crions de l'injustice, nous crions du mal, de la souffrance. Comment un Dieu peut-il laisser un tel mal régner dans cette terre ? Et toi, tu nous montres à travers ce passage que non seulement tu vois, mais en plus tu es venu compatir, souffrir, mourir pour cela. Comment l'homme est tordu dans sa quête de Dieu. Père éternel, nous sommes à genoux devant cette œuvre que ton Fils a faite d'obéissance dans la souffrance pour nous donner ce pardon parfait, total pour nous aujourd'hui. Merci, nous ne pouvons que te louer et te rendre toute la gloire qui était due, Père éternel.